Bonjour et bienvenue sur CFM pour cette nouvelle émission des Messagers du Cheval. Nous avons évoqué dans notre émission précédente la passion de la reine Elisabeth II pour les chevaux et les poneys. Je vous propose de découvrir aujourd'hui une race chère à son cœur, celle des poneys Highland qu'elle a contribué à protéger et à faire connaître grâce à son extraordinaire talent d'éleveuse et à son aura internationale. Elle était d'ailleurs la marraine de la Highland Pony Society. Cette protection royale n'est pas anecdotique, elle est importante car le poney Highland est considéré aujourd'hui comme une race rare et vulnérable. Il n'y a en effet environ que 5500 poneys Highland dans le monde et ils se trouvent majoritairement dans les fermes écossaises des Highlands et sur les îles alentours. La race est en effet originaire d'Écosse et c'est sur son domaine de Balmoral qu'Elisabeth II les élevait. Le poney Highland est une des trois races de poneys écossaises, les autres étant le poney Shetland et le poney Érisqué. Comme son nom l'indique, le Highland est originaire des hautes terres d'Écosse, situées au nord et à l'ouest de la faille frontalière des Highlands, depuis Arran jusqu'à Stonehaven. C'est une région isolée, très peu peuplée et peu fertile, seuls 9% de sa surface est cultivable, couverte de landes, de bruyères, de lacs, de lochs et de marécages, de tourbières, balayée tout ça par un vent froid. Dans cette région rude, au climat sévère en hiver, ne survivent que des poneys des montagnes et des landes. Il s'agit donc d'une race rustique qui peut vivre dehors toute l'année. En Écosse, peu d'écrits anciens mentionnant les chevaux ont survécu. Il est donc difficile de savoir exactement quand ils sont arrivés sur ce territoire. Il semble qu'il y ait eu deux types de poneys, un type petit et léger des îles occidentales et un type plus lourd et plus grand que l'on appelle mainland pony, c'est-à-dire celui qui vit sur l'île de Bretagne. Puis, les deux types se sont mélangés. Cependant, le phénotype des plus petits survit chez le poney Érisqué. L'existence des poneys est avérée au 8e siècle avant notre ère. Mais étaient-ils sauvages ou sont-ils arrivés avec les humains qui ont peuplé cette région? La question reste ouverte. Ce que l'on peut dire avec plus ou moins de certitude, c'est que les premiers chevaux des Pictes au 5e et 8e siècle de notre ère ont influencé la race des Highlands. Les Pictes formaient une confédération de tribus vivant dans le nord et l'est de l'Écosse avant la conquête de l'île de Bretagne par les Romains. Face à ceci, ils ont opposé une tactique de guérilla qui a décontenancé l'armée romaine qui n'a jamais pu les vaincre. Ils ont également résisté aux invasions germaniques pendant plusieurs siècles. Leur territoire, sur lequel régnaient divers clans, se fondit progressivement avec le royaume gallique de Dal Riata vers l'an 900 pour former ensuite le royaume d'Alba. Leur identité finit par se confondre dans celle des peuples identifiés comme Scots. On a retrouvé un très beau casque pour équidés qui prouve que les Pictes appréciaient leurs poneys. Ils avaient certainement sélectionné les plus endurants, capables de porter de lourdes charges et à qui ils avaient tissé des liens afin que les poneys acceptent de tirer ou de porter celles-ci sur des terrains difficiles. Les caractéristiques de cette région des Highlands, formée de marécages, de montagnes et de affleurements rocheux, de forts courants que traversent les tourbières et les marécages, ne sont pas à prendre à la légère. Au IVe siècle, lors des guerres d'indépendance écossaises, les guerriers de William Wallace, immortalisés par Mel Gibson dans Braveheart, et de Robert de Bruce, mirent à profit leur connaissance du terrain autour de The Firth of Forth pour attirer les Britanniques dans les marécages. Lourdement armés, les chevaliers sur leurs montures carapaçonnées furent avalés par la boue, les pièges des marécages et des tourbières écossaises se refermant sur eux. Donc, que cela soit au cours de voyage, de chasse ou de campagne militaire, les montures des Pictes et des rebelles écossais devaient affronter un terrain dangereux. Un programme d'élevage et d'entraînement apparaît donc non seulement nécessaire, mais vital. Les dessins de chevaux sur les pierres dressées qu'ont laissées les Pictes montrent qu'ils faisaient une partie intégrante de leur vie. Cependant, ce qui est arrivé au Poney Highland entre l'époque des Pictes et le XVIIIe siècle reste flou, même si l'on sait que les Highlands ont été la monture des guerriers écossais. Par ailleurs, les échanges entre l'Écosse et les pays scandinaves permettent d'ajouter à ses origines de petits chevaux de type Fjord. L'ancêtre du percheron, ainsi que d'autres races de chevaux français et espagnols amenés en Écosse au XVIe siècle, apparaissent également dans le profil génétique du Highland. Alors la présence des chevaux français n'est pas étonnante. N'oublions pas que la princesse française Marie de Guise fut régente d'Écosse. Elle avait épousé le roi Jacques V d'Écosse et François Ier offrit au roi d'Écosse des percherons. Plus tard, en tant que régente à la mort de son mari, elle s'est appuyée sur les troupes françaises au cours de la guerre qu'elle a menée contre Élisabeth Ière, guerre soutenue par les royaumes de France et d'Espagne, qui espérait ainsi mettre une catholique sur le trône d'Angleterre, Élisabeth étant jugée comme hérétique. Tout cela, vous le savez, s'est très mal terminé, puisque la fille de Marie de Guise, Mary Stuart, devenue reine d'Écosse, a fini par être arrêtée puis exécutée sous les ordres d'Élisabeth Ière. Maintenant, nous allons écouter Mull of Kintyre, un chant d'amour à l'Écosse, écrit par Paul McCartney et Dennis Lane pour leur groupe Les Wings en 1977.
Travel and much have I seen, dark distant mountains with valleys of green, past painted deserts, the sun sets on fire as he carries me home to the Mull of Kintyre. My desire is always to be here, oh, Mull of tears in the rain still take me back where my memories remain. Flickering embers grow higher and higher as they carry me back to the Mull of Kintyre. Time.
voilà de retour en Écosse, que d'ailleurs nous n'avons pas quitté grâce à Paul McCartney, pour revenir sur l'histoire des Poney Highland. Au XVIIIe siècle, les équidés sur lesquels nous possédons des écrits sont clairement considérés comme des Highland. Cependant, il faut attendre les années 1830, donc le XIXe siècle, pour que l'on puisse distinguer leur lignée. Alors, qui sont les principaux éleveurs? Eh bien, les premiers sont les ducs d'Atholl, dont le titre a été créé en 1703 pour le chef du clan Murray. Ils furent donc les premiers éleveurs connus. Leurs terres sont situées sur un ancien royaume picte. Ils ont introduit du sang oriental à la souche native. Bien avant la reine Elisabeth II, son ancêtre, la reine Victoria, appréciait l'Écosse, où elle se rendit pour la première fois en 1842. Son époux, le prince Albert, y trouva le domaine de Balmoral, qu'il commença à louer en 1848, avant de l'acheter 4 ans plus tard. Ils firent construire un château qui fut terminé en 1856. Victoria fut reçue avec le prince Albert chez le duc d'Atholl, à Blair Castle. Dans le premier volume de Life in the Highlands, son journal, qui couvre la période de 1848 à 1861, la reine Victoria revient sur sa visite et sa promenade à dos de poney à Blair Castle. Je cite « Nous sommes partis sur les poneys en direction des collines. Albert montait le poney d'un et moi le gris, accompagné seulement de Sandy McNamara, vêtu de la tenue des Highlands. Nous sommes passés par l'arrière, à travers le fjord, Sandy tenant mon poney et Albert suivant de près. L'eau atteignait les genoux de Sandy. » Les deux volumes du journal des Highlands ont été publiés et furent à l'époque de formidables succès d'édition. Plus tard, le fils de Victoria, le roi Édouard VII, se rendrait à Édimbourg en 1903, où il passerait en revue les troupes montées sur les Poney Highland du 2e régiment des Scottish Horse, sous les ordres du duc d'Atholl, qui les avait élevés. Au cours du 19e siècle, les poneys britanniques Fell et Dales furent croisés avec les poneys écossais. Un arabe syrien a fondé la lignée de Calgary sur l'île de Mull, qui est la deuxième île la plus vaste des Hébrides intérieures, à l'ouest de l'Écosse. Déjà au XVIe siècle, on pense que les MacNeil of Barra, un autre grand clan écossais, avaient croisé des Highlands avec des étalons arabes, et là sur l'île de Barra, une autre île de l'archipel des Hébrides. Les MacNeil of Barra voulaient obtenir, dit-on, des chevaux d'un blanc laiteux, à la crinière et à la queue flottant dans le vent, et dont l'agilité surpasserait celle des cerfs de la forêt. D'autres chevaux qui furent utilisés en croisement avec les Highlands ont été les Clydesdale et les Hackney. Les poneys des Highlands sont résistants, trapus et extrêmement forts. Leurs corps sont compacts et bien proportionnés. Ils ne doivent pas avoir un dos trop long car cela les déséquilibrerait. Bien qu'ils appartiennent à la race des poneys, ils peuvent être grands. D'ailleurs, ce sont les plus grandes races de poneys indigènes. Ils font entre 1m32 et 1m48, qui est la hauteur au garrot qu'ils ne doivent pas dépasser. Ça, c'est les recommandations de la Highland Pony Society qui plutôt les situe à 1m42 maximum. Les Highlands ont été élevés à l'origine pour travailler dans les petites fermes écossaises où ils tiraient du bois et participaient au labour, portaient la tourbe et gardaient les troupeaux avec les bergers. Mais ils étaient surtout utilisés à l'origine pour porter du gibier, car sa force et la sûreté de son pied lui permettaient de transporter des animaux abattus pesant plus de 100 kg sur les terrains les plus difficiles empruntés par les chasseurs. Les Highlands ont une expression vive et alerte. Ce sont des poneys qui s'intéressent à tout ce qui les entoure. Ils ont une encolure longue et épaisse et une épaule oblique. Leurs postérieurs sont puissants, leurs jarrets sont plats, leurs canons sont courts et leurs genoux larges, ce qui leur confère de la force et de la robustesse. Par contre, il n'a pas beaucoup d'action avec les genoux. Il ne monte pas les genoux. Et ce sont les épaules qui lui donnent une allure droite et du mouvement. On attend d'eux qu'ils marchent à l'allure de l'homme. Ils ont de petites oreilles courtes, un nez large et court, leur crinière et leur queue sont épaisses. La Highland Pony Society préconise de les laisser flottantes et de ne pas les couper, d'autant qu'en extérieur, la végétation raccourcit la queue naturellement. Ils ont également de longs poils qui couvrent les pâturons. Leur robe épaisse leur permet de survivre toute l'année au climat rigoureux de l'Écosse. En effet, l'hiver, elles possèdent une double épaisseur. Au plus près de la peau, les poils sont duveteux, doux et très épais. Par-dessus, on trouve des poils beaucoup plus épais et résistants qui protègent la peau de la pluie battante, un peu comme les castors. Les robes sont de couleurs variées. Tous les Highlands sont porteurs du gène d'un, qui est un gène de dilution, qui va de tous les tons de jaune, gris à fauve brun et baie. Les robes les plus répandues sont les baies et les gris. La robe noire est peu fréquente car pas du tout typique de la race. Il existe quelques rares exemples d'alezans avec une queue et une crinière argentée. Le gène d'un caractérise les races primitives, voilà pourquoi les Highlands possèdent souvent une raie de mulet, des zébrures sur les jambes, qui rappellent que leur génétique est ancienne. Les balzanes et les listes ne sont pas admises, seule une petite étoile est acceptée. La couleur pie, pie noir ou pie alezan, n'est pas admise non plus, alors que Morel, étalon chef de race enregistré au haras d'Atoll en 1853, était pie. Les Highlands font preuve d'un excellent tempérament, mais ils peuvent être très têtus. Comme ils sont extrêmement puissants pour leur taille, ils n'hésitent pas à s'en servir pour obtenir ce qu'ils veulent. Pour cette raison, il est important de leur apprendre de bonnes manières dès leur plus jeune âge. Ils sont gentils, amicaux, patients, mais aiment bien s'amuser. Il faut les stimuler et les occuper constamment. Ils sont bien disposés au travail et c'est important car ils ont besoin de travailler pour rester de bonne humeur et surtout parce qu'ils pourraient avoir tendance à l'embonpoint. En effet, comme ils ont survécu sur des terrains accidentés et à des climats rigoureux, ils ne sont pas difficiles et ils ne leur offrent pas beaucoup de nourriture pour grossir facilement. Il faut donc faire très attention de ne pas les mettre dans des pâtures trop riches, car ils deviendraient facilement obèses et risqueraient une fourbure. C'est un poney qui n'a donc pas beaucoup de besoins et il n'est pas nécessaire de le ferrer. Aujourd'hui, on peut utiliser les Highlands en équitation, en attelage, comme cheval de bât ou pour de longues randonnées à travers les langues écossaises. La reine Elisabeth II les élevait pour les concours de modèles et allures et ils participaient comme chevaux de bât aux chasses à Balmoral où elle a créé un haras de poney Highland. Souhaitons que son œuvre perdure et que ces beaux poneys courageux continuent à prospérer en Écosse où ils sont considérés comme de vrais trésors nationaux. Je vous souhaite une bonne semaine à tous et je vous donne rendez-vous pour une prochaine émission.